La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet. Bien le bonjour et bienvenue dans la Midinale de Radio Piquet ce 21 novembre 2022. Aujourd'hui, une midinale avec des intervenants réduits. Nous ne sommes que trois autour des micros, mais vous allez voir, on va réussir à s'en sortir quand même. Donc on a Pedro, salut.
Salut.
On a Kevin, salut. Et on a Seb, salut. Donc on va faire les deux premières parties. On s'est dit qu'on n'allait pas forcément les nommer, même s'il y aura pas mal de revues de presse dans la première partie. Et c'est probable que dans la partie s'informer autrement, il y ait aussi un peu de s'informer autrement. Puis il y aura peut-être encore un reste de revues de presse. L'actualité est tellement débordante, on ne sait même plus de quoi parler. Il y en a dans tous les sens.
Faut que je bois là.
Ouais, parce qu'on aurait pu parler de plein de choses, hein, de l'Iran qui se met à bombarder la communauté kurde autonome d'Irak, des Turcs aussi qui ont rattaqué les Kurdes encore. Les Kurdes, ils prennent cher en ce moment.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu un attentat.
Ouais, il y a eu un attentat que le gouvernement turc s'est empressé d'associer au PKK, etc. Donc là, c'est parti pour la répression aussi. Bon, bref, on ne sait plus de quoi parler. Mais on a quand même d'autres sujets aussi. Ceux-là ne sont pas à mettre de côté, bien entendu. Hein. On y reviendra peut-être dans les semaines d'après, en fonction de l'évolution. Et c'est donc Pedro qui va commencer par nous parler de Rest in Peace, Pôle emploi.
Oui, c'est ça. Puisque, comme vous le savez tous, là, au Parlement, là, a été votée la réforme de...
La énième.
Là, c'est la réforme dure. Là, c'est la modulation des droits suivant l'activité en France.
Oui, celle-là fait mal.
Celle-là va faire mal. Parce qu'en gros, l'idée du gouvernement, c'est de dire, quand tout va bien, on vous baisse vos droits. Et quand tout va mal, on vous augmente vos droits, ouais. Sachant que c'est l'État qui gère l'indicateur. Donc, comme tout indicateur géré par l'État, il sera toujours bien.
On peut imaginer qu'ils ne vont pas augmenter grand-chose au niveau des droits, voilà. Quand tout ira mieux.
Donc, moi,
si tout va mieux, d'ailleurs.
Ouais. En fait, je ne vais pas trop m'attarder sur la réforme en elle-même, parce que pour l'instant, je ne vois pas trop de lutte ni de messages syndicaux arriver.
Je crois que les détails, on va les avoir qu'aujourd'hui, en plus par le ministre de la Travail. Du travail, pardon.
Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est plutôt que je suis tombé sur un petit article de France Info là, hier. Et en fait, c'est plutôt les agents Pôle emploi qui s'inquiètent de cette réforme. Parce qu'ils
ils sont en première ligne.
Ils sont en première ligne. Et en gros, déjà, on sait tous que c'est une usine à gaz, Pôle emploi et tout ça, et que c'est très compliqué suite à toutes les réformes qu'il y a eu avec Sarkozy, puis Hollande, puis Macron. Donc on a bien pété un outil, histoire de tout débalancer au privé.
Et l'externalisation de tout un tas de services aussi.
Voilà, c'est ça. On a balancé beaucoup de choses au privé. Quoi. Mais ça, c'était Sarkozy plus. Et donc là, ils s'inquiètent. En gros, les gens, ils reçoivent quand même... Enfin, là, ils interrogeaient quelques personnes. Et ils reçoivent quand même de plus en plus de menaces de mort. Mmh. C'est assez violent. Hein. Clairement, ils reçoivent des menaces d'être brûlés vivants, brûler les agences. Enfin, c'est assez fou. Enfin, après, bon, il faut toujours comprendre aussi qu'il y a des gens qui se retrouvent dans une misère telle ou qui ne comprennent pas, vu que les règles changent tout le temps, en fait. Donc, ce qui se passe, c'est que ça devient un peu dur. Donc, en gros...
Un petit peu, voilà.
En gros, il disait que depuis le début de l'année 2022, il y avait eu 11 000 signalements qui ont été réalisés.
Ah oui, quand même.
Voilà. Et donc, le dernier en chiffre, c'était un jeune qui a tenté d'agresser un agent en couteau. Bon, après, on n'a pas plus de détails. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et en gros, tous les syndicats, ils disent que les chiffres augmentent, sauf la CFDT, qui, elle, dit... non, c'est parce qu'ils n'hésitent plus à signaler. Et donc, ce qu'il y avait un article intéressant aussi dans le... Enfin, ce qui avait d'intéressant aussi dans cet article, c'est qu'il mettait un petit chiffre aussi en lumière, c'est qu'entre 2019 et 2022, les agressions liées à des radiations ont augmenté de 63% et de 57% concernant l'étude des droits. Donc en fait, comme l'étude des droits et les radiations se sont aussi vachement durcies, puisqu'on peut se faire radier de Pôle emploi maintenant très facilement, et accéder à ces droits devient assez compliqué, parce que comme il y a eu moult réformes qui sont passées...
Bah, est-ce que tu disais que celle-là faisait mal, mais moi je trouve que la réforme qui dit qu'il faut déjà travailler 6 mois sur les 24 derniers mois, au lieu de 4 mois sur les 28 oui. derniers mois, déjà celle-là est calme, et puis c'est surtout quel droit auquel tu accèdes quand on prend en compte les périodes non travaillées au milieu de tes périodes travaillées. Je veux dire, si c'est pour avoir un RSA derrière, c'est quoi en fait Pôle emploi? Qu'est-ce que ça devient quoi?
Malheureusement, je pense que Pôle emploi, eux, ils ne font... Enfin, je dissocie les agents de l'institution. Hein, les agents, ils sont en première ligne depuis des années. Ils ne font que subir. De toute façon, ils héritent de portefeuilles de... Ils appellent ça des portefeuilles maintenant, en fait.
De gens à s'occuper.
De gens à s'occuper qui sont fantasmagoriques. Hein. Moi, je connais quelqu'un qui a à peu près 300 personnes à suivre.
Mmh. Ouais, pratique.
Donc,
Ce qui serait intéressant de voir, c'est de savoir où on en est. Parce qu'à la base, en fait, ces réformes-là, c'était pour faire des économies, entre guillemets. Mmh. Donc, je crois que on en avait parlé il y a à peu près 6 mois. Enfin, c'était au début de l'année. En fait, ils avaient déjà dépassé le chiffre des économies. Enfin, l'objectif qui était souhaité, quoi. Donc, en fait, là,
il n'y a plus de raison d'en rajouter.
Et déjà, il n'y avait pas de raison d'en rajouter. Parce que, de toute façon, quand tes dépenses augmentent, tu n'es pas obligé de... Enfin, voilà, si tu fais ça par exemple pour l'assurance maladie ou des trucs comme ça, enfin tu dis bah en fait on va rogner sur les droits. Enfin il y a plein de trucs où un schéma qui paraît cohérent sur l'assurance chômage, en fait c'est complètement débile et c'est pas à faire quoi. Et en plus de ça, ouais, là c'est des c'est forcément quelque chose sur lequel ils sont gagnants quoi. Enfin c'est ils étaient déjà gagnants, je crois que ils avaient déjà remboursé avec ces mesures là je crois qu'ils étaient à près de plus de 50% de ce qu'ils estimaient en fait en début d'année, donc voilà.
Oui, oui,
le coup de dire justement par rapport à la conjoncture d'adapter ça, en fait ça va vraiment aucun sens quoi.
Bah, sachant qu'en plus là la conjoncture, on est quand même on est fin 2022, il y a une inflation de ouf, il y a des boîtes qui disent là qu'elles vont licencier du monde parce qu'elles peuvent plus suivre. 2023, on va voir comment ça va être, mais est-ce que ce sera une année verte pour le gouvernement? C'est ça qu'il faut voir.
Oui, puis encore une fois, tout ça c'est mis sur la table dans le fait qu'il faudrait que l'assurance chômage, enfin Pôle emploi, soit gérée comme une entreprise qui en gros dépense pas plus que ce qu'elle touche, alors que tout ça c'est quand même au sein de la sécurité sociale en général et que c'est pas forcément un lieu. C'est normal que ça puisse être financé par autre chose que les cotisations. Alors les cotisations, c'est important, hein, que ce soit salarial ou patronal. Mais moi, ça me paraît des fois normal aussi que les fonds arrivent d'ailleurs. On a des secteurs d'activité, des secteurs publics qui ramènent plus d'argent. Bon, on a perdu la Française des Jeux, c'est con, hein, parce que ça pouvait servir, tu vois, à financer ce genre de trucs, quoi.
Non, mais privé, c'est mieux.
Bah oui, c'est sûr. Bah oui, maintenant on est bien conscient que tout ce que vous dépensez à la Française des Jeux, ça revient à la sécurité sociale, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Tout ce qu'ils enlèvent au chômage, moi j'ai touché une petite aide de la CAF là ce mois-ci, j'étais pas au courant. Il y a eu une aide exceptionnelle versée en novembre par la CAF. C'est pour soutenir le pouvoir d'achat, ce fameux pouvoir d'achat. Alors attention, l'aide exceptionnelle versée pour les familles les plus précaires et les plus pauvres, c'était 28 euros par foyer, auquel on rajoutait 14 euros par enfant à charge. Donc voilà, si vous êtes les heureux, heureuses bénéficiaires, parce que vous êtes pauvres de cette aide exceptionnelle, si vous avez deux enfants, vous allez toucher 56 balles ce mois de novembre en plus. Ça va vous sauver la mise. Ça n'existera qu'une fois, hein. C'était que pour novembre, faut pas déconner.
Ouais, mais bon, voilà, ils sont un peu tendus le gouvernement là sur les aides à donner, c'est un peu compliqué.
Oh, bon, tendus, et, non, ils sont détendus, ils en donnent plus.
Et donc, alors moi je vais revenir comme un peu à cet article aussi, tu vois, c'est ce qui est bien, c'est qu'en conclusion aussi, on voit l'opposition de deux politiques, puisqu'en gros, la direction de Pôle emploi, voilà, on va appeler ça les gros énarques, donc le gouvernement. C'est marrant parce que quand tu lis ça, t'as l'impression d'avoir le gouvernement, enfin t'as l'impression d'avoir Darmanin qui a écrit la phrase. En gros, Pôle emploi a mis en place une politique tolérance zéro. des plaintes à chaque agression physique, vidéoprotection dans les agences, exercice pour faire face à une intrusion armée. Bon, si le mec il vient avec une calage, tu peux toujours faire des exercices. Et en opposition, tu as les syndicats et le personnel qui souhaitent plutôt une augmentation des effectifs pour mieux traiter les demandes, potentiellement à faire baisser les tensions. Bah oui, parce qu'il y a un moment, c'est pas parce que tu auras fait un bunker avec des caméras de surveillance partout et des trucs que les gens ils seront contents, hein. Mais on voit où on en est. On est un peu dans la. La direction te dit, bah, on sait qu'il y a du mécontentement, mais au lieu de réagir intelligemment, on va investir du pognon dans des vidéosurveillance, dans la sécurité.
Il y avait aussi l'histoire des bracelets anti-agression. C'était en septembre. Ça, c'était.
C'est quoi, ça?
Bah, en fait, c'était équiper les conseillers. Qui étaient en contact du public de bracelets électroniques, en fait, où en gros ils avaient que sur un bouton à appuyer, et puis en fait après t'avais une brigade qui débarquait. Et en fait, là je suis retombé sur l'article, c'était 695 bracelets qui avaient été commandés en région parisienne, tu vois.
Ah, quand même, ouais. Ça coûtait combien ces bracelets?
Bah, je sais pas, mais du coup, je sais pas s'ils vont généraliser la manip, et puis enfin voilà.
Oui, ils vont les brancher sur les battements de leur cœur, ouais. Ils ne les ont même plus appuyés, tu vois.
Ah, non, il a arrêté de battre, celui-là. Peut-être envoyer quelqu'un.
Mais le pire, c'est que toutes ces campagnes-là, ou tout ce que tu vois se passer, il y a aussi la campagne sur les agressions des agents publics, par exemple sur Brest, là, ils font des campagnes comme de ouf, quoi. Et en fait, tout ça t'amène plus vers de l'absence de guichet, quoi.
Bah, oui.
C'est-à-dire que
ça va justifier des fermetures, ça.
Fermeture d'accueil au public et toutes les démarches en ligne, quoi. Ouais. Bah, je suis pressé de voir à quoi ça ressemblera une agence Pôle emploi dans 2 ans, quoi. À mon avis, c'est ce que tu dis, c'est un bunker, c'est un guichet. avec des vitres pare-balles, et puis voilà, quoi.
Et des prises de rendez-vous, tu auras 2 heures dans la journée, ouais, pour pouvoir y aller, quoi.
Ouais. Ouais, et puis un truc qui accentuera en plus la fracture numérique, puisque tous les gens qui ont des difficultés avec l'Internet et tout ça, il y en a encore beaucoup, hein, on a tendance à oublier, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise avec les outils numériques, bah, eux, ils n'auront plus que leurs yeux pour pleurer.
Ouais, et puis ils seront radiés, parce que de toute façon, comme ils ne maîtrisent pas l'outil numérique, ils n'auront pas vu les super propositions d'embauche de Pôle emploi, et c'est donc voilà, ils n'auront pas répondu et ils seront radiés.
Donc je trouvais l'article intéressant parce qu'il te mettait un peu quand même un ressenti des, enfin il y a quand même les agents qui ont peur, parce que on peut comprendre puisqu'ils sont en première ligne, hein, parce que l'énarque est dans son bureau bien au chaud, lui ça va, et c'est cette réponse complètement dystopique entre les uns et les autres, où il y en a un qui dit ouais, mais vous inquiétez pas, on va bunkeriser l'agence, ça va le faire, on est bien. Vous serez au chaud, et les autres en face qui disent ouais, mais non, ce serait, au lieu de bunkeriser, mettez plus de gens, et puis on répondra peut-être aux besoins aussi et aux questions, quoi, parce que finalement il y a beaucoup de gens qui comprennent plus les règles, vu que c'est devenu tellement compliqué.
Bah, même les agents, des fois ils sont perdus, quoi, quand tu leur demandes ça va être quoi mes prochains droits, ils font, je suis désolé, je vais mettre les données dans le logiciel.
Ouais, voilà.
C'est le logiciel qui répond, donc si en plus il y a un bug dans le bordel, je t'explique pas, quoi. Mais ouais, mais c'est toujours plus de sécurité, toujours. Je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais rebondir sur un truc. Oui, sur cette loi de chômage aussi. On va voir. Ouais. Comme toi, au départ, tu disais que c'était l'État qui décidait de la conjoncture économique, mais ça va être comme le fait de ne pas donner accès aux droits de chômage aux personnes qui ont fait des abandons de poste.
Oui.
Qu'on t'est viré par la suite, donc quand t'es viré, t'as le droit au chômage, point barre, et de dire, bah voilà, maintenant, ils vont qualifier ces abandons de poste de légitimes ou pas, en gros, mais qui va décider de ça? C'est pareil, quoi, ils sont où, c'est quoi les indicateurs, quoi?
Ah si, pour les abandons de poste légitimes, ils ont mis les critères.
Il y a déjà les critères?
Ouais, c'est si t'as subi du harcèlement et tout ça, mais c'est pareil, c'est par exemple, faut que t'aies déposé une plainte pour harcèlement, que tu dis que t'es ton médecin qui a qualifié le truc comme quoi t'es en
arrêt de travail.
En arrêt de travail, ça c'est très compliqué, quoi.
Bon, on va faire un appel au médecin généraliste, soutenez-nous, hein, quand on viendra vous voir pour vous dire qu'on veut plus aller au travail parce qu'on va casser du patron.
Si tu veux, là,
faut nous arrêter, hein.
En plus, l'abandon de poste, on en avait un peu parlé de cette mesure là. C'est une mesure, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'était pour faire plaisir aux gros droiteux du en fait, c'était la droite qui défendait vachement cet amendement, parce qu'ils sont persuadés que tout le monde quitte son boulot.
Mais
c'est pas vrai. En fait, les gens
par plaisir.
C'est les gens qui quittent leur boulot, ils le quittent pas par plaisir, quoi. Les gens, ils le quittent parce qu'ils sont en souffrance. C'est pas tu, ben tu, oui. tu te mets pas en abandon de poste et tout ça pour le plaisir. Il faut arrêter de croire ça. Quoi. C'est pas parce que.
Si t'es bien au taf, généralement, t'y restes.
Oui, voilà.
Enfin, si te convient, j'ai rarement vu des gens avoir un taf qui leur convenait et se barrer. Quoi.
Et puis après, ce que les droiteux, là, ils te disent pas non plus, là, c'est que il existe d'autres critères, si tu veux, pour quitter ton emploi. Par exemple, tu pourrais faire une rupture à l'amiable.
Rupture conventionnelle.
Voilà, mais sauf que la rupture à l'amiable, ben, faut te verser une prime. Et l'employeur, il veut pas.
Ta prime de licenciement, voilà. En fait. Quoi.
Il veut pas, en fait, l'employeur. C'est juste ça qui l'emmerde. En gros, il va dire, ah ben non, tiens, en plus, il faut que je garde du pognon pour m'en débarrasser. Donc la seule solution que les gens y trouvent, ben, c'est soit ils se mettent en arrêt longue durée. Et au bout d'un moment, bah, ça va devant le médecin conseil et tout ça, et on commence à discuter sur un licenciement. Et alors, après, maintenant, il y a le nouveau truc aussi qui va rentrer avec les lois M. Khomri qu'on a un peu passé sous silence. C'est aussi maintenant ton employeur, il a le droit de te licencier pour raison économique.
Oui.
Il y a un truc un peu particulier.
Mais là, tu as le droit au chômage, normalement.
Mais là, tu as le droit au chômage, ouais. Mais c'est un truc qui est passé aussi avec certaines nouvelles conventions collectives, ça va être une arme à double tranchant. Enfin, ça arrive, par exemple, moi, dans mon domaine. Ou la nouvelle convention collective, où nous on va passer à un système qui ne reconnaît plus les diplômes. Je fais partie de la convention collective de la métallurgie. Mmh. Et ce sera un système de points. Et c'est le poste en fait, qui définira ton statut dans la société. Donc, c'est-à-dire que tu peux bosser 10 ans cadre, et puis un jour ton patron il dit bah non, en fait, toi ton boulot c'est plutôt un boulot de technicien, et bon, tu finis technicien, et ils te font signer un avenant. Et si tu n'es pas content, ben, ils peuvent te licencier justement en disant. La conjoncture économique n'est pas bonne et moi j'ai besoin de remplacer mon cadre que je paye 5000 balles par un technicien que je paye 2005. Tu vois, ça a été fait par le MEDEF, voulu par le MEDEF. Bon, il y a 3 OS qui ont signé ça quand même. Hein, mais, Donc là, on arrive dans un domaine où même le monde du travail, de toute manière, il commence à te détruire aussi.
La façon de te licencier et tout, voilà. Ça commence à ressembler à ce qui se passe aux États-Unis. Quoi.
Ouais, mais. En fait, on ne peut pas comparer notre marché de l'emploi au marché américain.
Non, il y en a un peu plus de protection encore, ouais. Heureusement. Mais...
Et puis le marché américain, il a des gros défauts, mais ils ont aussi d'autres trucs qui sont pas mal. Enfin,
Des trucs pas mal quand tu penses États-Unis, toi.
Il n'y a qu'un seul truc que je vois bien, c'est qu'ils reconnaissent ton savoir-faire avant de reconnaître aussi... Tu peux arriver, par exemple, avec un bac littéraire et dire bah, « moi, je sais faire plein de trucs ». Ils ont cette vision un peu anglo-saxonne qui n'est pas bien pour plein de trucs. Mais ils savent reconnaître aussi les acquis des gens et le savoir-faire. Ils te mettent un peu moins dans des cases. En France,
ils te virent comme une merde.
Et ça marche en Angleterre aussi.
Ouais.
Mais bon, bref. Donc ça, c'était Pôle emploi, hein, parce que voilà, on nous aime bien. Et on parle de la droite aussi, hein, parce que tu vois, au passage, on parle de cet amendement. En fait, l'amendement sur les abandons de poste, c'est un amendement fait par la droite. Salut.
On a du monde qui arrive, cool.
Cool, on sera 4, ouais. Et à côté de ça, bah justement, je voulais revenir sur cette valeur travail, parce qu'il y a eu un autre article. Il y a eu un autre article qui est passé le 16 novembre, donc ça c'est encore un peu frais, sur le site Révolution Permanente, et c'était une nouvelle casserole. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Révolution Permanente. Oui. Et c'était une nouvelle casserole, justement, à un des défendeurs de cet amendement sur l'abandon de poste. Notre cher député Éric Ciotti, facho de droite.
Facho, t'en connais de gauche, toi, des fachos.
Ouais, il y a des... Manuel Valls, c'était de gauche, soi-disant.
Oui, vu comme ça, d'accord.
Vu comme ça, tu vois. Et la valeur travail, selon Éric Ciotti, c'est le titre de l'article, son ex-épouse visée pour cumul d'emploi. En fait, son ex-femme, elle nous a fait une Pénélope Fillon, mais bien comme il faut, tu vois. Elle est magique. Hein. C'est, en gros, elle a cumulé jusqu'à 4 emplois. Donc, c'était pas mal.
Des plein temps Des temps pleins, pardon.
Alors, pour se défendre, Éric Ciotti, il a dit qu'elle avait respecté la réglementation du travail parce qu'elle ne travaillait jamais plus de 44 heures par semaine.
Par emploi. Alors,
je sais pas, parce qu'en même temps, elle a occupé 3 emplois en même temps. Donc, tu te dis, bah ouais, mais la base de travail en France, c'est quand même 35 heures semaine. Donc, ça veut dire que si elle a 3 emplois, c'est 3 emplois soit à mi-temps qui font 35 heures par semaine. Ou alors, ça veut dire qu'elle a 3 emplois à temps plein et comment elle fait, quoi. Et ça, c'est le mec qui te défend ça, c'est quand même un des premiers, tu vois, de l'Assemblée nationale à dire qu'on est tous des feignasses, que putain, il faut bosser parce que la valeur travail. Et lui, bah, il a fait comme tous les autres, quoi. Il a trouvé un petit boulot à sa femme qui va bien. Donc elle a été. Donc c'est son ex-conjointe. Elle a été embauchée en juin 2007 comme assistante parlementaire d'Éric Ciotti. Nouvellement élue à l'Assemblée nationale. Elle restera en poste jusqu'en 2016. Donc j'imagine qu'entre 2007 et 2016, elle a dû faire beaucoup de rapports. Pénélope Fillon.
On devrait les trouver.
Mais bon, en 2008, donc en même temps que son poste de parlementaire, enfin de truc parlementaire, là, Elle est aussi directrice adjointe du conseil départemental des Alpes-Maritimes lorsque son époux en prend la présidence.
Ah oui, d'accord. Oui, en plus, c'est tout sans arrêt rattaché.
Et la même année, elle rejoint la mairie de Christian Estrosi à Nice et obtient également un poste au sein de la communauté urbaine un an plus tard. Donc voilà, 4 emplois, tu vois.
Bon, apparemment, c'est des emplois qui servent à rien, quoi, parce que je vois pas comment t'as le temps, en plus sur des endroits différents, quoi. Faut avoir le temps de se déplacer entre chaque emploi, quoi.
Donc ouais, ouais. Et donc voilà, donc il s'est défendu en déclarant que le cumul d'activité n'a jamais dépassé 44 heures semaine.
Non, mais même au-delà de ça, est-ce que c'est des emplois publics, j'ai l'impression, non ?
Ah ben c'est que des trucs de copains de mairie, en fait. C'est en gros, c'est ouais, des emplois qu'on lui a trouvé.
T'as des réglementations.
Ouais, mais je crois que...
Normalement, quand tu bosses pour le public, t'as pas le droit de cumuler avec un autre emploi, par exemple. Enfin,
tu peux avoir
des dérogations, mais c'est dérogation...
Eux, ils sont pas... Elle est pas élue. Regarde. C'est que des postes d'adjointe parlementaire et tout ça. Donc, je sais pas dans quel... Et en plus, c'est la nouvelle loi sur les trucs de parlementaire, c'est passé parce qu'il y a eu Pénélope Fillon. Quoi.
Puis qu'est-ce qui est déclaré comme emploi ? Regarde-nous en local. Notre cher maire François Cubillandre, oui. Maire de Brest,
ah ouais, mais ça,
président
c'est...
de la communauté de communes, PDG d'eau et ponant, là, machin.
Ouais, mais il touche pas de thunes pour...
Il touche pas de thunes pour tout ça ?
Non, c'est des jetons qu'ils ont dans les conseils d'administration.
Ah oui, mais le jeton, tu le transformes en action, après ?
Bah non, mais enfin...
Tu vas pas me dire qu'il fait ça gratos ?
Non, mais je pense qu'il doit peut-être avoir, des remboursements pour le temps que ça lui prend, si tu veux. Mais il n'est pas salarié d'eau du Ponant, quoi, par exemple.
Non, mais ça cumule... Oui, voilà, mais c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on entend par salarié, tu vois, c'est... Ouais. Et pourtant, moi, ça pose problème. Je suis désolé, il n'a pas le temps de faire ces trois trucs-là.
Bah si.
Il est super. Vous avez vu ce qu'il fait.
Il est super.
Il est Uber.
Bon, bref, pour revenir à l'histoire Ciotti, hein, parce que
Magne,
finalement, ils bouffent tous dans la même casserole, hein, ces gens-là, hein, faut pas croire, hein, les requins se bouffent pas entre eux. Et c'est quand même bien parce que Éric Ciotti, son credo, quand même, depuis qu'il est député, hein, et que là, il vise aussi la présidence des Républicains. Ou il vise plus, je sais plus. Enfin, si, je crois qu'il vise la présidence des Républicains. Son credo, quand même, à Ciotti, c'est réhabiliter la valeur travail. Voilà.
Ça va plaire à Roussel, ça.
Ça, ouais, ils sont potes. Mais c'est surtout, voilà, donc ce mec-là, dans tous les plateaux de télé, enfin, je sais pas comment ils font pour vivre comme ça, les mecs, ils doivent avoir des dédoublements de personnalité, ça doit être un truc, ça doit être magique. J'aimerais bien qu'Apsi les analyse un jour, parce que ça doit être des cas d'école. Ce gars-là, à la télé, il va t'annoncer que tous les chômeurs et les réministes et tout ça, c'est des feignasses. Qu'en gros, il se bouge pas le cul pour aller bosser, qu'il faut réhabiliter la valeur travail, et pendant ce temps-là, il a son ex-femme, elle, qui occupe 3 postes.
Voilà.
Et c'est pas des postes à 1 000 euros.
Il
hein.
pourrait nous en laisser un peu quand même.
Donc voilà, donc on est quand même dans une société où. Et des gens votent pour lui, hein. C'est impressionnant.
Oui, bah oui.
Bon, bah j'imagine que.
Il y a bien des gens qui votent pour Le Pen, ou Zemmour.
Oui. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule, tu vois, parce qu'après Pôle emploi ou une réforme où on se fait fracasser les dents, ben, maintenant t'as quand même des mecs qui en plus ont voté cette réforme, hein, parce que Ciotti, c'est un des défenseurs de l'amendement justement sur les t'as plus de droit pour avoir de bon nom de poste, c'est le défenseur de la réduction des droits et tout ça avec l'indicateur. Les LR, ils sont à fond là-dessus, hein, réhabilitons la valeur travail, ne l'oublions pas, réhabilitons la valeur travail, je vais le dire plein de fois.
Et
à côté de ça, bah voilà. Il fait du détournement de fonds publics, il fait travailler son ex-femme, on est bien. Mmh. Nous aussi, je crois qu'on aimerait bien faire ça. Tu aimerais bien être assistant parlementaire ? Ce serait pas mal.
Non.
Après, t'es à Skipa, t'es pas obligé de bosser, tu peux faire plusieurs emplois à côté. c'est quand même pas mal. Pendant ce temps-là, tu peux te donner bonne conscience et aller à l'usine, tu vois, réapprendre la valeur travail, tu vois. Mmh. Avec Agnès Pannier-Runacher, le monde merveilleux de l'industrie.
Il y a encore un article sur son ex-mari.
Oui, on les enchaîne.
Je sais plus comment il s'appelle, celui-là. J'ai vu ça où ce matin. Alors je l'ai plus, mais en gros, elle commence à les cumuler. Je sais plus le nom de son ex-mari. Pedro recherche peut-être ça en ce moment.
Ouais, je te cherche ça si tu veux.
Et là, c'est dans le contexte du début de la Coupe du Monde au Qatar. Hein. Ça y est, enfin, il se réveille dans les médias. Il commence à dire que ça pue cette Coupe du Monde. Non, mais en fait, ça fait un moment que vous savez qu'elle a lieu là-bas. Et qu'il y a des morts déjà autour des constructions de stades. Enfin, qu'il y a tout un tas de dossiers de merde. Et là, en fait, c'est un ancien élu PS, un socialiste, qui était son ancien mari. Alors pendant qu'ils étaient mariés, ouais,
c'est comment ? Nicolas Bay.
Ah, Nicolas Bay, ah, en oui, plus, il est connu. Voilà. Et bah, à l'époque, il avait l'air bien copain avec les Qataris aussi, parce que lui, il avait fait des demandes de billets d'avion, de chambres en hôtel de luxe, de chaussures de luxe, tout un tas de trucs. C'était pour lui, sa femme et ses enfants. Et sa femme était...
Ah non, je dis peut-être des bêtises.
Agnès, à cette époque-là. Attends, on a balancé, on a fait de la diffamation.
C'est son nouveau conjoint.
Ah,
Nicolas Bay.
Ah, ça c'est le nouveau. Alors ouais. Excuse-nous,
et
Nicolas.
Qui était avec Aurore Berger avant. Mais en fait, je suis sur le site de Gala, là, et ils expliquent tout bien. Il y a des flèches et tout.
Ah, la vache, on a sourcé Gala chez Piquet. On est bon, là.
Attends, moi je l'ai peut-être vu passer
non,
sur
non,
le
jeu. Non, je vois pas de qui tu parles. Mais...
Moi je sais pas, je suis sur sa page Wikipédia. Et dans sa page Wikipédia, il y a quand même un article de Wikipédia qui s'appelle Polémique. C'est un truc de ouf. Elle a une page Wikipédia où dedans c'est écrit polémique.
Bon, on va essayer de retrouver le nom de l'ex-mari d'Agnès, qu'on ne balance pas, qu'on fasse pas trop de diffamation quand même, parce qu'on se fasse pas attaquer pour rien, quoi. Ouais. Tiens, puis une dernière news, pendant qu'on parlait du chômage, ça y est, je t'avais dit qu'on allait avoir des news aujourd'hui, annoncées par notre cher ministre Dussopt. Alors, en deçà de 9% de taux de chômage,
ouais.
Je crois que c'est ce qui est le cas actuellement. On est à 7.
Ouais, on est à 7.
Et puis, comme tout est fait pour qu'il y ait moins de droits, je crois que de toute façon, on en radie, donc on sera en deçà de 9% de taux de chômage. On a rarement été au-dessus, quand même. La durée d'indemnisation de la plupart des allocataires sera réduite d'un quart. Non, ne vous inquiétez pas, ça, tout va bien se passer.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu avais droit à 24 mois, par exemple, tu as droit à un quart en mois. Quoi.
Voilà, un quart en mois. Ouais,
18
en
mois.
Alors, ça c'est pour quoi ? C'est pour tout le monde ?
Non, ils disent la plupart.
La plupart, alors la plupart. Qu'est-ce qu'on a dans la plupart ?
Bah, la plupart, quoi.
Ça, ça va pas encourager les. Parce que, tu sais, il y a leur système de l'ARE, là, l'aide à la reprise d'entreprise et tout ça, mais les gens, ils vont pas se lancer, ils sont fous. Le business model va s'écrouler, quoi.
Non, mais en-delà de 9%, on a... j'hallucine, moi.
Il faudrait que tu regardes les chiffres du chômage sur les 25 dernières années, je pense pas qu'on ait déjà été à au-delà de 10%.
Alors, pour que ça revienne, pour qu'ils récupèrent leur niveau actuel, il faut que le taux de chômage repasse au-dessus de 9% ou qu'il soit en progression de 0,8 points sur un trimestre. Le taux de chômage en progression. Mmh. Ah oui, il remonte quoi.
Mmh. Oui.
Donc soit on repasse à 9%, soit on remonte 0,8 points en un seul trimestre.
Ouais, donc à 9,8 quoi.
Voilà.
Et dans ces cas-là, du coup, on est cool. On reste avec notre ancienne loi toute pourrie. Quoi.
Voilà.
Bon, alors, travailleurs, travailleuses, arrêtez de bosser comme ça.
Pour avoir 24 mois, il faut le rappeler, hein, faut bosser au moins 2 ans d'affilée en plus.
Ouais.
Quand tu vois tous les contrats de CDD et tout, imaginons quand tu bosses 6 mois dans l'année avec un coup de chance d'affilée, tu as le droit à 6 mois, bah là, tu n'auras plus le droit à 6 mois. Tu en enlèves un quart.
4 mois. Quoi.
4 mois et demi. C'est bien. Alors moi qui étais contractuel de l'éducation nationale, j'avais déjà des doutes hein, avec le calcul des droits, le nouveau calcul qui prenait en compte les gens de nous travailler. Là, je crois que c'est clair, ça ne sert plus à rien d'aller faire ce métier. Et tous ceux qui ont des contrats précaires avec des coupures, bah voilà. Et puis du coup, bah, ça va faire des gens en moins parce qu'on ne sera plus chômeur, on sera dans la catégorie RSA. Donc les 9%, on n'est pas prêt de les revoir.
C'est pas grave, si, parce que dans le 9%, ils doivent compter aussi ceux qui n'ont pas de droit, normalement. Ils comptent tout le monde.
Ah non. Moi, pour moi, c'est là-dedans, c'est les inscrits.
C'est les inscrits.
Ouais. Ah non, c'est les inscrits.
Hein. De toute manière, tu vois, leur truc, c'est bien fait pour bien t'enfumer, parce que tu ne sais pas quel chiffre ils utilisent.
Oui, bon, en gros, c'est la première mesure qui vient de tomber, là.
Je suis assez surpris que, putain, il n'y a pas de réaction, ni centrale syndicale,
Moi, je suis surpris que toutes ces différentes réformes chômage qu'on a pris dans la gueule, là, depuis 1 an, 2 ans, qu'est-ce qu'ils ont foutu, les syndicats ? À la retraite, ça les bouge, ça. Ça les bouge un peu plus. Mais le chômage, ils ont laissé passer, quoi.
Mm-mm.
Alors maintenant, tu les entends, on demande... l'annulation des réformes chômage. Mais ouais, mais alors vas-y, bah, lutte, parce qu'elles sont passées, là.
Bon, après, je te dirais qu'il nous reste combien de temps de Macron, encore ?
Trop.
Trop.
Trop. Heureusement que c'est le dernier mandat. Hein.
Ouais, il a le droit d'en faire 3. Hein.
Non, 2.
Ah non, tu peux en faire 3, si t'as envie.
Non, 2.
T'es sûr ?
D'affilée. Ouais, 2 consécutifs, il sera obligé de faire une pause.
Ah, bon, ouais. Il sera Premier ministre ?
J'espère.
Ah merde, ils ont fait ça en Russie aussi, ça marche bien.
Bon, et on en est avec ce dossier du coup. Est-ce qu'on passe au sujet suivant? Ou est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter?
Non, je vais attendre les publications des centrales syndicales qui vont tomber juste, je pense, aujourd'hui sur la réforme. Bon. Mais il y a tellement de sujets en ce moment pour les centrales syndicales que ça va être compliqué. Ouais.
Bon, on parlait de licenciement, il y en a aussi, je crois que Kevin, tu avais un petit sujet là-dessus. Moi, j'ai pu voir ce week-end, j'ai vu différents articles, il paraît que ça pue à la Silicon Valley. Les grandes, les GAFAM et tout ça, les startups, c'est plus la fête.
Ouais, ça puait déjà grave.
Ils ont atteint leur pic, quoi.
Ça puait avec Twitter, ça puait avec Facebook Meta.
Ouais.
Et là, la semaine dernière, il y a une, il y a eu une annonce, du coup, du licenciement de 10 000 travailleurs d'Amazon dans le monde. Donc ça, c'est une première mesure qui est tombée. Et en fait, ils ne s'interdisent pas du tout que ça se prolonge pour l'année 2023, en fait. Et il y a un article dans Révolution Permanente, tiens donc, du coup, qui s'intitule « Amazon licencie 10 000 travailleurs dans le monde ». Il faut interdire les licenciements. Je passerai sur le côté « il faut interdire les licenciements », même si c'est une partie qui est hyper importante, mais du coup, là, qui n'est pas vraiment dans l'actualité, c'est plus un argumentaire en fait de Révolution Permanente. Du coup, c'était lundi dernier donc que le géant Amazon du multimilliardaire Jeff Bezos a annoncé prévoir un plan de licenciement historique de près de 10 000 emplois dans le monde qui rentrerait en application dès cette semaine afin de répondre à la crise économique. Ce que l'article rappelle, c'est que... Alors moi, j'ai vu deux chiffres différents, mais je pense que c'est des chiffres qui sont actualisés. Et c'est ça que je trouvais un peu bizarre, c'est que Amazon, dans le monde, en tout cas en début d'année, employait plus d'un million 600 000 personnes dans le monde.
Ouais, moi,
et là, il parle d'un chiffre en septembre de 1 540 000. Ouais. Donc ça veut déjà dire que potentiellement ça a dégraissé, mais que ouais. Comme peut-être que c'était dans un contexte. Enfin, là le truc qui choque beaucoup, c'est que ça arrive. C'est une mesure aussi qui est prise aussi dans un contexte où il y a Twitter, il y a Meta, il y en aura d'autres. Ah derrière, bah. Je crois que j'ai entendu parler de Disney aussi qui avait annoncé que ce serait un...
Bah, leur plateforme de streaming n'a pas l'air de très bien fonctionner. Ils ont rappelé l'ancien PDG qu'ils avaient viré en 2020. Moi j'en ai. Hein, j'ai Twitter, t'as Meta, ça tu l'as dit. Mmh. Enfin, Twitter, c'est pour d'autres raisons actuelles.
Ouais, Twitter, c'est pas économique.
Donc il y a Amazon, il y a Netflix... Il y a Netflix aussi qui, encore une plateforme de streaming. Il y a Snap, il y a Stripe, il y a Coinbase, il y a Robinhood, Intel, Salesforce, Lyft et Netflix. Donc, ils ont tous licencié 10 à 20% de leur personnel cette année.
Mmh. J'imagine qu'ils ont quand même engrangé des bénéfices records.
Et en fait, sur Amazon, là, ils donnent des chiffres. Ils ont fait des bénéfices records en 2020. En 2019, les bénéfices, c'était 2,6 milliards de dollars. Et en 2020, c'était 5,2 milliards de dollars. Donc, un doublement des bénéfices entre 2019 et 2020.
Pendant les confinements.
Du coup, ils ont lancé des gros investissements donc à hauteur de 4 milliards cette même année-là. Donc, en fait, tu les ajoutes en fait aux 5,2. Quoi. Et en fait, ils se sont un peu plantés quelque part, quoi. Et donc là, pour rassurer les actionnaires et pour parce qu'en fait c'est aussi des sociétés qui fonctionnent beaucoup sur la bourse, enfin sur le sur, voilà c'est, ouais. C'est toujours ces machins, c'est
ouais, ils fonctionnent avec un PDG. On me voit pas, je fais la radio, je mets des guillemets. Charismatique. Mais ils payent aussi des choix stratégiques de PDG. Parce qu'en fait, par exemple, Mark Zuckerberg, je crois que c'est ça le mec de Facebook, qui maintenant est devenu Meta. Il a fait des paris, si tu veux, sur le métaverse et tout ça, comme ils appellent ça. Ça est en train de se vautrer la gueule bien comme il faut. Ouais. Et en fait, il a perdu des milliards et des milliards en bourse. Ouais. Et au lieu de dire que c'est un incompétent, ou que c'est un mec dangereux, ou que c'est un narcissique, on est en train de virer les gens quoi, qui travaillent pour lui. Quoi.
Facebook, moi j'ai des chiffres. Par exemple, en mars 2020, il y avait 48 000 employés. Mm. Alors ça, c'est en septembre, là, ils étaient montés à 87 000 employés. Donc, ils avaient quand même embauché sévère. Mais ça, c'était dû sûrement à la période de confinement, que tout était de plus à distance. Puis sûrement embauché pour ce projet de métaverse à fond.
Ouais,
quoi.
Et puis pour tout ce qui était les services de visio et tout ça qu'ils ont
et
mis
ben
en
là,
place.
Là, ils viennent d'annoncer 11 000 suppressions d'emplois. Donc, tu vois, les 10 000 quelque part d'Amazon sur 1 million d'employés, c'est que dalle quoi, en pourcentage. Quoi. Là, chez Facebook, ça fait mal. C'est 11 000 d'un coup. Qu'est-ce qu'il y a un site qui est layoff.fyi qui recense les licenciements là-bas. Il y a quand même eu 24 000 suppressions d'emplois en octobre sur 72 compagnies, donc tout autour de la Silicon Valley à peu près. Hein. 53 000 en novembre. Et ça fait donc on voit l'accélération, ce qu'ils disent au total plus de 100 000 depuis le début de l'année. 100 000 depuis le début de l'année et 24 000 en octobre, 53 000 en novembre. Donc quasiment tout est là, quoi.
Par contre, ils parlent que de licenciement, on ne parle pas du gros syndrome qu'ils ont aussi aux États-Unis, là, qui s'appelle la grande démission. Là. C'est que les licenciements.
Oui.
Parce qu'ils ont aussi tous leurs cadres sup qui se barrent.
Ouais, bah, y a un problème à San Francisco, apparemment, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de boîtes aussi de la Silicon qui étaient là-bas. Justement, les cadres se barrent, quoi. Et la ville essaye de leur dire revenez, on a plein de boulot et tout. Et je crois qu'ils ont 15% de postes vacants en ce moment à San Francisco.
Si tu veux aller bosser à San Francisco.
Non, ça va. Bon, pour l'instant, pas. Mais pour l'instant.
Après, tu vois, ce qui est paradoxal, c'est que les trois grosses boîtes là, qui se cassent un peu la gueule, c'est comme trois boîtes où c'est un PDG omnipotent complètement fou. Parce que Mark Zuckerberg, il est fou. Maintenant, Twitter, là, c'est l'autre taré de Elon Musk. Qui quand même, lui, c'est un génie. Hein.
Ah, lui, il est lui, dans le génie des fous.
Lui, il est le summum du mec. Il arrive dans une boîte, il fait des tweets pour dire qu'il va tout casser. Après, il envoie des mails à gens en disant t'es viré.
Voilà.
Et le jour d'après, il se rend compte qu'il a viré des gens dont il avait absolument
compétent.
Besoin pour faire fonctionner la plateforme.
Et maintenant, il demande à ses directeurs, vous voudriez pas me faire une liste des gens qui étaient compétents, en fait, et qui font... Non, mais ça va leur donner envie de revenir, ceux-là.
Mais il en a rappelé. C'est passé la semaine dernière. Ouais, il a renvoyé des gens.
A...
Et les gens lui ont dit, mais non.
Combien vont revenir? Il y en a sûrement une partie qui va revenir, mais...
Bah, des gens qui ont forcément le collier au cou avec le crédit, le système américain, c'est enfin, le truc classique, ils vont potentiellement revenir. Mais il y a plein de gens qui, si t'es un peu jeune diplômé, machin, que t'as pas trop d'attache, bah, les mecs ils disent bah, « c'est bon, j'ai eu du savoir-faire, maintenant je me casse et je vais voir ailleurs ». Et puis bah, crève Twitter, quoi. Et à côté de ça, ouais, j'étais tombé sur une autre déclaration, parce que tu vois, il y a Amazon aussi, et il y a eu une déclaration de Jeff Bezos, qui est tombé la semaine dernière, parce que la semaine dernière, on s'est tous un peu fait laver le cerveau si tu étais sur Internet avec les Black Friday, consommer. Et il y a le PDG d'Amazon, enfin, je ne sais pas s'il est toujours PDG, qui a dit « Ah, le Black Friday, c'est bien, mais les gars, gardez quand même un peu votre argent, quoi. » Il a écrit un truc comme ça en disant « Bah ouais, mais dépensez pas trop, Black Friday. » Mais pourtant, c'est sa boîte hein, qui te lave le cerveau à te dire « Achetez des téléphones portables, achetez des PC, achetez des machins. » Et je sais pas, il y a un truc bizarre comme hein, sur les... Bon, peut-être qu'on est en train de revivre un peu la bulle là, qu'il y avait eu dans les années 2000 là, sur les boîtes d'Internet, là, où ils sont tous montés à une vitesse fantastique pour tous se casser la gueule après. Et c'était la crise de l'Internet, justement.
En tout cas, je fais une petite correction. Je viens de dire une connerie. 15% de bureaux vacants. En fait, c'est de bureaux vacants à San Francisco. C'est pas 15%, c'est un quart. Donc une ville quand même qui a connu la chute de population la plus importante des villes américaines pendant la pandémie. Ils ont perdu 6,3% de personnes, 54 000 personnes qui sont parties, d'où la ville qui essaye de leur dire revenez. Il n'y a que 42% des employés qui sont revenus depuis. Bref, et ils disent, pour te dire, la circulation piétonnière n'atteint que 36% du niveau pré-pandémie à San Francisco. Donc là, ça se barre. Là, tu disais le grand... comment t'appelais ça, là les grandes démissions.
La grande démission, il s'appelle ça.
C'est un livre.
Ouais, c'est ça. Et c'est dû à la pandémie, justement, où les gens se sont vachement questionnés sur leur rapport au monde du travail. Enfin, ça s'est passé beaucoup chez les cadres, il faut être honnête, parce que c'est des gens qui ont le temps de lire, je pense. Tu vois. Un peu plus que le mec qui est à l'usine toute la journée à faire la même tâche, il n'a peut-être pas trop le temps de réfléchir.
Il y a plein de gens à lire David Graeber, je pense, Bullshit Job.
Ouais, sûrement, potentiellement, ouais. Et ils ont mais c'est arrivé à un moment, ils en parlaient un peu en France, hein, parce qu'en France, ils ont les grosses boîtes, elles ne le disent pas trop, hein, mais ils ont un peu ce souci de recrutement, plutôt dans la catégorie technicien et cadre sup.
En tout cas, ça se voit dans les annonces, dans les offres d'emploi, par exemple. Les discours ont complètement changé. C'est-à-dire qu'avant, on te décrivait le poste oui. Pour lequel tu allais candidater. Maintenant, c'est les valeurs environnementales, sociales de l'entreprise, qui, même ouais. si c'est complètement pipeau.
Hein. Moi aussi, chez Total, on fait du pétrole vert.
Moi, j'avais même vu une annonce où, en gros, ils vantaient la vue sur mer, tu vois, du bureau. Quoi. Là, tu te dis, bah, qu'est-ce que ça fout dans une annonce pour l'emploi bah, enfin, tu marches sur la tête. Quoi.
Ils ont des gros problèmes niveau
ouais.
RH dans les grosses boîtes.
Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il suffit qu'il y en ait, un. Enfin, c'est une mode qui a été lancée. En fait, il y en a un qui s'y est mis. Et maintenant, toutes les offres d'emploi se ressemblent. C'est-à-dire que tu commences par une entreprise dynamique ou quoi que ce soit, ou soucieuse de l'environnement, machin, bidule. Et en fait, effectivement, oui, ça peut être un truc par rapport à Thales ou ça peut être Total qui te vend ce machin.
Quoi. Ouais, bah parce qu'après, les réseaux RH entre eux, ils se causent. Hein, donc,
ouais.
Qu'il y en a un qui a vu un truc qui marchait, c'est les autres qui se disent, ça marche.
Ouais.
Mais ils sont quand même emmerdés, ouais, parce qu'ils se retrouvent... Ils se retrouvent, si tu veux, maintenant avec des jeunes ingés ou des jeunes diplômés qui, eux, n'ont pas la même vision de l'entreprise. Tu vois, ils n'y croient plus trop à l'entreprise toute ta vie dans la même boîte. C'est super, c'est génial. Et qui ont plus peur, en plus, de se barrer. À une époque où, tu vois, peut-être, nous, on est peut-être une génération où c'était moins facile d'envisager de se barrer parce que, de toute manière, on a passé notre temps à nous dire qu'on allait avoir du mal à trouver du boulot. Et comme actuellement, où ils sont plutôt dans une vague où ils trouvent du boulot facilement, ils sont formés, ils connaissent les fonctionnements des réseaux assez facilement, ils ont des réseaux qui se créent entre eux dans leurs écoles et tout ça. Et ça, les RH, enfin, je sais que je ne vais pas trop en parler, mais moi, d'une expérience que je connais, c'est compliqué pour les RH actuellement de recruter, parce qu'eux, avec leurs vieux arguments des entreprises des années 70 de merde, là où on te dit « Non, mais tu verras, c'est super, il y a de l'intéressement, il y a de la participation, et pognon !» Et le mec, il lui dit « Ouais, mais moi, je m'en fous, je veux bosser 35 heures et faire 3 jours de télétravail, et c'est quoi, sinon, les avantages qu'il y a au CE ? Parce que bon, le reste, je m'en branle. » Et ils sont un peu paumés, ouais. Mais c'est rigolo, hein. Tu vois que...
Ils font la gueule en ce moment.
Mais ouais, mais en même temps, les sociétés sont pilotées, à part les startups, là, où eux, ils te font rêver comme quoi, tu vas voir, on veut faire du baby-foot et c'est super, il y a un toboggan dans le bureau. Et toutes les grosses boîtes françaises, elles sont pilotées par des mecs qui ont 80 balais. Enfin, les PDG des grosses boîtes, c'est pas des jeunes, hein. Ils sont persuadés d'être jeunes dans leur tête, mais en vrai, tous les mecs dans les conseils d'administration qui dictent une politique dans la boîte, ils ont 70, 60 balais, et ils sont complètement...
Souvent, c'est les anciens sénateurs.
Voilà.
Non,
bon, ils se traînent ensemble. Il y en a quelques-uns qui ont dû être députés, ou maires, ou enfin bref, ils ont eu des trucs. Et eux, cette valeur, tu vois, En fait, ils s'attendaient pas, finalement, suite à la pandémie, à ce que tant de gens se questionnent sur la valeur qu'ils avaient par rapport au travail... Et comment ils voulaient vivre sa façon de travailler. Et en fait, ils se prennent les pieds dans le tapis. Et bah, une pandémie, quelque part, elle a fait du bien aux gens parce qu'elle a ralenti un petit peu le système et elle leur a permis de se poser, pour certains. Quoi, parce qu'il y en a d'autres, on ne leur a pas trop laissé le temps de se poser. Et ils se retrouvent un peu dans la merde maintenant avec ce système. Et puis on voit aussi les grandes démissions, même dans les écoles d'ingé. Hein. C'est un peu minoritaire, mais ça commence à arriver. T'as quand même la déclaration qu'il y avait eu là, des jeunes ingés de c'était AgroSup ou je sais plus quoi, la super école qui forme tes cadres de l'agriculture supérieure. Leur déclaration, elle a fait du bruit. Hein. Et ça fait goutte d'eau, puisque finalement, il y a plein de jeunes maintenant ingés et tout ça qui se posent la question de quelle valeur je veux avoir dans mon entreprise et qu'est-ce que je veux faire. Quoi. Et est-ce que la valeur qu'on me vend, c'est une valeur qui me parle, quoi. Alors qu'avant, ils n'en avaient rien à branler de l'éthique. Ils étaient plus dans un système de faire du business, du management, du tout ça. Et que maintenant, les valeurs éthiques, elles reviennent un peu. C'est bien. Enfin, je trouve ça bien. Mais est-ce que ça va tenir dans le temps
ça... Ouais. Ça, on n'est pas sûr de ça.
Ouais, il restera, je t'inquiète pas, il restera toujours des requins. Je ne suis pas inquiet.
Bon, moi, je retrouve toujours pas le nom de l'ex-mari de...
Ah, je l'ai trouvé.
Ah
merde, c'était sur sa page Wikipédia. Ah, merde, je l'ai quitté. Ah si, c'est bon, vie privée. Elle était Marc Panier.
Marc Panier, et c'était bien...
C'était un condisciple de l'ENA, inspecteur des finances et actuellement président de NG Global Market.
D'accord, et il était au PS, lui.
Il était au PS, mais en gros, il était chez NG et elle était la fille de... du mec qui est chez Enerco, je sais plus, la boîte de pétrole dégueulasse. Là. Enfin bref, des gens qui ils vivent tous dans le même monde, ces gens-là, de toute façon. C'est un peu la nouvelle, royauté, quand même. Ils se marient entre eux, hein. Faut pas mélanger le sang.
Bon, eh ben on est déjà pas mal pour le début de cette revue de presse. Je trouve que ça part en force, quoi. On va peut-être faire une pause, parce que moi j'ai deux, trois sujets, mais j'ai peur que là, j'ai pas assez le temps d'en parler tout de suite. Ça risque d'allonger un peu trop longtemps cette première partie. Comme je vous l'annonçais au début de cette première partie, du coup, on va continuer un peu la revue de presse dans la deuxième et on fera aussi du s'informer autrement. Du coup, j'avais prévu des coupures musicales adaptées.
À la lutte,
ou à ce qu'on disait. Je vais en garder un pour la deuxième partie. Là, ce que je vous propose, comme on parlait de précarité, enfin, ça va être de pire en pire, on va passer les Sales Majestés avec Sois pauvre et tais-toi. Et puis en mode un peu plus vénère, pour se remonter le moral, on va passer les Vulves Assassines avec Godzilla 3000. Est-ce que ça vous va, vous, tout ça?
Ça me va bien.
Ça vous va? Eh ben écoute, tu sais ce que je fais? J'envoie les Sales Majestés, puis nous on va faire une pause. À tout
ça
à l'heure.
Ça roule. À tout à l'heure.
Oui, sois pourri, tais-toi, toi la petite caissière, et mais y'a ton salaire, en pauvre chez Leclerc. Sois pauvre et tais-toi, toi le petit fonctionnaire. Tu devrais avoir honte de nous coûter si cher. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Tous les jours on galère, oui dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail. Pendant que Nicolas fait son footing au bois, on se pèle sur les quais en attendant le tramway. Oui sois pauvre et tais-toi, le sapeur-pompier, tu sais sauver des vies, ça rapporte pas de blé. Oui, sois pourri, tais-toi, toi le petit cheminot, tu sais les privilèges, c'est pas pour les prolos. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Tous les jours on galère, oui dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail. Pendant que Nicolas fait son footing au bois, on se pèle sur les quais en attendant le tramway. Tous les jours on galère, tous les jours on galère. Tais-toi, toi la petite infirmière, on te les paiera jamais, tes heures supplémentaires. Oui, sois pauvre et tais-toi, toi la petite Kaira, fume ta marijuana et surtout bouge de là. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Tous les jours on galère, oui dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail. Pendant que Nicolas fait son footing au bois, on se pèle sur les quais en attendant le tramway. Tous les jours on galère, oui dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail. Pendant que Nicolas fait son footing au bois, on se pèle sur les quais en attendant le tramway. Tous les jours on galère,
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 tous les jours on galère.
Certains me diront ça sert à quoi les gros muscles. Moi je leur réponds. Avoir des gros muscles, ça sert à faire voler les avions. Ça sert à faire décoller les fusées. Ça sert à déplacer les montagnes. Les montagnes.
T'as la plus grosse, j'ai les plus gros. T'as la plus grosse, j'ai les plus gros. T'as la plus grosse, j'ai les plus gros. Plus grosse, j'ai les plus gros.
Godzilla 3000.
J'ai de la masse en masse, c'est un tour d'Apollon en béton armé par d'acier. Pression, traction, tu veux te battre, je te
vends la gueule.
Je te vends la tronche comme une bûche.
Des biscuits, on va
et je m'entends, je me culturise quand je suis au WC. Je fais le sport comme une.
fort. La récréation